la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. J'ai la grande chance d'avoir, pas face à moi, mais de part et d'autre du micro. On va commencer par madame Anne Perret, bonjour.
Oui, bonjour.
Anne Perret Zayas.
Oui, après, plus tard.
Plus tard. Et Rodrigo de Zayas, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Nous avons enregistré ensemble une émission Air de Rien consacrée donc au magnifique coffret de l'atelier Bay consacré à votre père. Donc écoutez la précédente émission Air de Rien et puis une également avec Bruno Dohan qui nous a expliqué comment il a mis en page ce magnifique ouvrage. Alors j'en profite, comme vous êtes venu avec votre épouse, pour vous accaparer lors d'une seconde émission pour vos carrières personnelles ou ensemble en fait. Hein. Ça, vous m'avez dit, vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres, mais peu importe, ça fait à peu près 53 ans que vous vous connaissez. Alors l'un dit 50, oui, l'autre dit 51, oui, mais voilà. Bon, 53 ans.
N'est-ce pas ?
53 ans d'amour, de bonheur, de musique, de partage. Et j'aimerais que pendant ces une vingtaine de minutes, vous nous parliez justement de vos passions communes, mais peut-être par le biais de la musique, puisque vous vous êtes rencontrés par la musique.
Oui, c'est pour la musique. Je pense donc qu'en 1967, puisque mon mari m'a corrigé, nous nous sommes rencontrés une soirée. C'était lors du Festival d'Aix-en-Provence. Et je pense que mon mari, qui habitait mon compagnon enfin, au départ, puis mari plus tard, cherchait une chanteuse, cherchait quelqu'un avec qui partager la musique de la Renaissance, la musique baroque. Moi, je n'avais encore pas mon premier prix de chant. Et donc, ce sont des amis communs qui nous ont introduits. La première rencontre s'est très, très mal passée parce qu'on m'avait volé ma voiture cette nuit-là.
Et j'étais... Oui, donc un peu énervée.
Oui, tout à fait furieuse. Mais bon, l'avenir a prouvé qu'il avait raison de chercher une chanteuse puisqu'on est toujours ensemble.
Alors, Rodrigo de Zayas, on a parlé de vous en tant que fils de votre père, de Marius. Et je ne sais pas comment vous définir, parce que quand on regarde tout ce que vous faites, alors là, on va parler du musicien, on va parler du musicologue, on va parler de l'écrivain, on va parler de...
Eh bien, on va parler de la personne, finalement, oui. Parce que cette personne, à ce moment précis, c'est-à-dire en 1967, voulait consacrer sa vie professionnelle à la musique en tant que concertiste. Et concertiste d'un genre d'instrument cantincé. Donc, luth, la corde... La guitare courtisane du XVIe siècle, de la cour espagnole, qui s'appelait vihuela, qui veut dire viol, tout
viol,
simplement.
Ouais.
Mais même en portugais aujourd'hui, viol veut dire guitare. Donc il s'agit d'une guitare à double corde. Mm-hmm. Ces instruments-là, le théorbe aussi, sont des instruments qui sont faits pour être joués solistes et en accompagnement.
Et c'est pour ça
que je cherchais une chanteuse.
Et comment vous êtes venue cette passion de ces cordes? Alors, on a parlé de votre père, il était musicien lui-même?
Mon père, toujours, oui, bien sûr. C'est lui qui, en jouant de la vihuela, en jouant de la guitare, flamenca en particulier,
m'avait... Oui, l'anecdote de 1936.
Et autant lui, quand il était petit, était attiré par le dessin, moi je l'étais par la musique.
Par la musique.
C'est quand, tout petit, déjà, j'arrivais à retenir vraiment par cœur des pièces tout à fait complexes, des concertos, des... Voilà.
Mais comment on devient professionnel, alors?
En se mettant au travail, en faisant des gammes. Et moi, j'ai commencé à 3 ans, exactement comme Anne, comme ma femme.
Ouais. Et vous aussi, Anne, vous aviez cette passion de la musique, vous saviez que vous seriez chanteuse?
Oui, j'ai une mère très mélomane. Et donc, à 3 ans, elle m'a mis au piano. Et je me souviens de la peur terrible que j'avais sur un tabouret avec mon professeur à côté. Et pour moi, c'était le précipice. J'étais toute petite. J'étais vraiment une enfant petite. Et j'avais mes jambes dans le vide. Et mais ça m'empêchait...
Interdiction de balancer les jambes.
Ça ne m'empêchait pas de faire des gammes. Et puis, d'avoir eu après la chance de rencontrer un maître qui s'appelait Achille Santi, Achille Santi. Qui avait été lui-même élève de Cortot.
Oui.
Donc, la grande école française.
Mais comment on passe du piano au chant?
Voilà, le piano, c'était un peu, pas sur ordre de ma mère, mais...
On préférence. Obéissait à ses parents.
Voilà, on obéissait. Et moi, j'avais toujours voulu chanter. Et mon maître qui me préparait pour des concours de piano, j'avais eu l'honnêteté de lui dire, écoutez maître, moi je ne jouerai jamais en concertiste de piano, je veux chanter. Et il me dit, mais alors, j'ai dit, mais ma mère ne veut pas. C'était un métier de femme perdue.
Courtisane.
Absolument. Bien. Et donc, il me dit, écoutez, chaque fois que vous allez très bien préparer vos classes, je vous ferai chanter. Donc, il a compris.
C'est la carotte, hein.
Ah oui, oui, oui. Et donc, je suis rentrée au conservatoire en un an, j'ai eu un prix, parce que j'avais chanté des années avec lui.
Alors, je vous propose, puisque nous parlons voix, on parle chant, je vous propose d'abord qu'on vous entende.
Merci.
Et vous avez choisi de Los Alamos Vengo, Madre, pardon, j'ai oublié le dernier mot. Vous nous en parlez un peu ?
C'est un villancico, c'est-à-dire ces chants à la fois populaires ou religieux, espagnols, qui s'accompagnent avec justement des vihuelas, qui sont ces guitares à double corde, qui sont des guitares pincées, évidemment, pas frottées.
Nous venons d'écouter, Rodrigo, vous avez toujours autant de plaisir à écouter la voix de votre épouse ?
Bien sûr.
Vous ne regrettez pas votre décision de l'avoir prise comme chanteuse et comme épouse en plus ?
En épousant la personne, j'ai épousé la voix.
Voilà. Et depuis 53 ans.
Oui.
Et la musique, c'est donc le ciment de votre couple ?
Certainement, entre autres choses, qui est la chose principale. Mais nous avons les mêmes goûts pour l'amour de l'art en général, c'est-à-dire la lecture, la peinture, bien manger, bien boire, quand on peut. Avec modération, puisque c'est le cliché à la mode. Mais c'est vrai que c'est la musique qui a été notre fil conducteur, c'est le fil d'Ariane. On ne fait pas une carrière sur plusieurs décennies sans avoir la même passion, parce que sinon les couples se défont. On a multiples exemples.
Là, c'est les couples d'artistes avec des projets communs. Alors, ce projet commun, ça a été donc j'espère que je vais bien le prononcer, le Taleb Ziryab.
Le Talier Ziryab.
Ouais,
alors, le
Talier
Ziryab, ça veut dire l'atelier Ziryab. Ziryab est un personnage qui avait été le musicien esclave de la cour califale de Bagdad. Mais il était d'origine iranienne. Il avait fait de l'ombre à celui qui était vraiment le plus officiellement le musicien du calife, qui était Haroun al-Rashid, évidemment.
Alors, êtes vraiment polyglotte, hein, vous parlez.
Oui, au moins.
Je sais que votre père, vous avez enseigné le mandarin à 6 ans, je crois.
Oui, enfin, c'est mon père qui a voulu que j'apprenne le mandarin. Il ne parlait pas. J'avais un professeur, des gens qui s'étaient des Chinois qui travaillaient pour le Kuomintang en tant que représentants devant la Société des Nations à Genève. Alors, ils ont fait le mauvais calcul en disant « Genève, c'est un tout petit pays, nous allons nous réfugier en France, qui est une grande puissance militaire ». C'était vrai.
Quelle vie romanesque. On passe de la Chine
au
Mexique. Oui. Là. Et puis, je suppose que dans vos carrières, vous avez beaucoup voyagé aussi.
Énormément, énormément. On a fait des rencontres merveilleuses. Beaucoup de croisières musicales avec André Segovia, le maître de la guitare.
Ah, ça doit être magnifique, oui. Et ça vous nourrit, et ça, c'est quelque chose.
Mais aussi, c'est ce que soude un couple d'une façon indissoluble. C'est, c'est de traverser toutes ces années de travail intense et pas toujours agréable.
Oui, il y a beaucoup d'embûches. Il ne faut pas s'imaginer que.
Oui, nous, on voit le résultat.
Un chemin de rose. Non, non. Il faut toujours être prêt, malade ou pas malade. Ça nous est arrivé aux États-Unis où on a travaillé pendant 15 ans en duo. Donc, tous les deux, on y a même usé 3 voitures entièrement. De nous tromper, par exemple, d'un concert à l'autre. On a été programmé dans un état et il y avait la salle de concert était dans un autre état à 1000 km de distance. Il fallait être prêt, être concentré. Et mon mari, qui jouait à ce moment-là de plus d'une dizaine d'instruments à cordes pincées sur la scène. Il fallait les accorder, les transporter, avoir les cordes de rechange, être fin prêt pour toutes les émissions de radio, de télévision, d'entrevues. Donc c'était un peu une vie de champ de bataille. Hein, ça a duré plusieurs décennies. Il faut aussi avoir des santé à toute épreuve. Parce que les agents de New York que nous avions, qui étaient un couple extraordinaire, c'était programmé des années à l'avance, ils ne voulaient rien savoir.
Rentabilité.
Absolument.
Oui, non, mais c'est intéressant de voir les dessous, justement, de cette vie, puisque nous, en tant que spectateurs, on ne voit que l'aboutissement. Mais il faut savoir que ce sont des métiers difficiles. Alors, votre épouse, Anne, a dit que vous jouiez 10 instruments à cordes.
Et jusqu'à 12, quelquefois.
Jusqu'à 12.
Ouais.
C'est mais comme pour les langues, polyglotte.
Pour donner une échelle de valeur ou si vous voulez de difficulté, c'est comme passer du violon à l'alto.
Ah ouais.
C'est-à-dire les écarts, par exemple, pour la main gauche sont différents. Mais là, des accords complètement différents, souvent. Donc, ou alors des tessitures tout à fait différentes.
Donc il faut avoir une concentration pour s'adapter.
Il faut d'abord vaincre le trac et avoir une sorte de familiarité avec le public. Moi je trouvais par exemple quelques trucs, ma femme va peut-être ne pas aimer ce que je vais dire là, mais je cherchais la plus jolie femme qui se trouvait dans la salle.
Vous jouiez pour elle.
Et je jouais pour elle. Non. Et ça me rendait le travail beaucoup plus facile. Le pire concert que j'ai donné dans ma vie,
c'était... Il n'y avait pas de femme.
Aucune femme.
Il n'y avait que des hommes. C'était à Boston.
C'était affreux.
Pour Harvard. Et vraiment, d'ailleurs, quand nous sommes rentrés au départ, pour rencontrer les organisateurs, ils ont dit, oui, mais mademoiselle sera dans la salle à côté. Et mon mari a dit, mais comment va-t-elle chanter? Ils sont restés hésitants. Il a dit, mais le concert, c'est à deux. Et eux-mêmes n'avaient pas réalisé que nous jouions. Le programme était un homme, une femme. Et j'ai été la première à être admise à chanter. Ça ne se faisait pas.
C'est incroyable, ça.
Alors, tenez-vous bien, c'était l'association des anciens étudiants de Harvard.
Oula, mais ils étaient très en avance. Hein.
Énormément.
Ah non, mais c'est fou, ça.
Et ils ont gardé un mauvais souvenir de moi et moi d'eux.
Ah, d'accord. Ouais.
Parce que moi, j'ai très mal joué et eux, vraiment, j'en garde un souvenir.
Non, moi, j'ai bien chanté parce qu'il y avait des hommes, donc
oh, c'était facile. Évidemment, bravo.
J'ai rattrapé.
Vous regardiez un homme.
Non.
Et le soir, vous vous retrouviez vous-même.
Ouf,
vous disputiez. Non.
Oui, mais assez épuisé, souvent.
Hein. Oui, souvent.
En pensant, il faut se lever à 4 heures du matin, il faut faire 1800 km avec tous les limitations de vitesse qu'il y a aux États-Unis, au Canada. Regardez, ça nous est arrivé de donner un concert à Edmonton, près d'Alaska. Il faisait moins 42. Et 2 jours après, on était à Puerto Rico, il faisait 38 degrés. Vous savez ce que c'est pour des cordes d'instruments, des cordes vocales?
Ah bien, je vous donne un truc pour les cordes. Je suis en train de jouer une pièce, elle est toujours techniquement très difficile, et je vais bien, je suis content. Alors, tout va bien, je suis en relation avec le public, les atomes crochus fonctionnent, clac, une corde saute.
Aïe, aïe.
Alors le truc, c'est de changer très vite et de raconter une histoire.
Mm-hmm. Mais j'ai l'impression que ça, vous savez faire.
Oui, j'ai appris à le faire. Alors, il faut raconter l'histoire, se diriger toujours à la personne à qui je me dirige.
Cacher son trac, son énervement.
Et changer la corde. Et l'accorder. Alors, dès qu'elle est accordée, elle se désaccorde. Alors, il faut l'attendre, et puis recommencer la pièce.
Alors, on va écouter un solo. Et vous avez choisi un luth baroque. Quand je vous ai demandé ce que vous vouliez, vous n'avez pas hésité. Un luth baroque, pourquoi ?
Le luth baroque, c'est un instrument qui a une sonorité très riche, très pleine, évidemment, d'harmonique, parce qu'il y a 13 rangs de cordes.
Waouh !
Oui, ça fait vraiment beaucoup de cordes. Et il y a aussi une grande profondeur, parce que ce sont des cordes qui vont plutôt vers la basse. Parce que dans l'aigu, ça n'aurait pas de sens, il y a un moment. Et l'accord des 6 cordes chantantes est la, ré, fa, la, ré, fa. Et le compositeur est un compositeur de la cour de Frédéric II de Prusse, Frédéric le Grand, qui s'appelait Silvius Leopold Weiss. Et je trouve cette pièce très belle, très, très faite pour le luth.
Alors sur Radio Alliance Plus, j'ai le grand plaisir de retrouver un couple de musiciens avec plein d'humour, après 53 ans de vie commune, dans la vie et dans l'art. Rodrigo de Zayas et Anne Pérez Zayas, un vrai plaisir de vous entendre. Anne, vous n'avez pas connu le père de Rodrigo, il était décédé avant que vous vous rencontriez.
Oui.
Mais je suppose qu'il a tout de même été, puisque nous avons fait une émission avec Rodrigo sur le coffret de livres de l'atelier Bay, je suppose que, et vous avez dit Rodrigo que vous aviez ses toiles, je suppose qu'il a tout de même été assez présent dans votre vie.
Oui, malheureusement donc, je ne l'ai pas connu. Mais j'ai été impressionnée dès le départ, des premières... années de tournée de concert que nous faisions aux États-Unis, nous avons été invités par Théodore Rousseau, qui était à ce moment-là directeur du Metropolitan Museum, et il nous avait invités à dîner. Et donc, il me pose une question, il me dit, avez-vous connu votre beau-père ? Et je lui dis, je lui réponds non. Et du tac au tac, c'était quelqu'un qui parlait admirablement français. Il me répond, a genius.
Ah oui. Tout est dit. Donc,
que rajouter de plus venant de la part d'un directeur du Metropolitan Museum. Et donc après, j'ai vécu avec les œuvres sous mes yeux, lisant les chroniques de la maison, des uns et des autres, de toutes les familles. Et oui, j'ai été très impressionnée.
Alors quand Rodrigo a décidé de faire ce coffret, ces ouvrages, vous pensiez que ça allait lui prendre 12 ans, 12 ans de vie ?
Oui, car c'est quelqu'un qui, au cours de ces décennies, a prouvé qu'il ne faisait que travailler. Je vais vous raconter une anecdote. Lorsqu'il est rentré à la maison, en tout honneur, les premières semaines, mon père travaillait encore. Il avait beaucoup de vignobles, beaucoup de terres à primeur en Provence, à côté de Saint-Cana. Et... donc il y avait des équipes de gens qui travaillaient avec mon père. Et mon père revenait pour manger, déjeuner, et affamé. Et mon mari n'était jamais encore à table. Et un jour, mon père me dit, « Ce monsieur, est-ce qu'il s'arrête quelquefois pour manger ?» Il ne faisait que travailler ses instruments. Car ça lui arrivait 14 heures par jour. parce qu'on ne peut pas passer, comme il a dit, d'une simple technique de guitare à cordes simples, à guitare baroque à cordes doubles, toutes les vihuels à cordes doubles, et puis vous avez des théorbes à 27 cordes, donc les techniques physiques, matérielles des doigts, doivent être entretenues tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Oui, c'est plus que des gammes, c'est vraiment
donc, une gymnastique. Donc 12 ans pour préparer ce somptueux coffret sur son père, ça m'a paru normal.
Et vous, vous travaillez aussi votre voix.
Oui,
peut-être pas 14
sûr.
Heures par jour.
Non, non, ça, d'abord, c'est impossible.
Oui, il faut la laisser.
Il faut se reposer. Il ne faut pas avoir trop de mistral dans les cordes vocales. Il ne faut pas manger trop d'olives vertes. Personne qui fume autour. Voilà, bon, essayer de dormir quand on peut.
Donc une vie de travail, mais une vie aussi de... comment dire, de recherche, et vous avez continué à jouer pendant ces 12 années pour faire ce livre ?
Beaucoup moins. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un niveau d'amateur éclairé.
Modeste, je pense.
Oui. Hein,
un amateur éclairé de haut niveau, je pense, ouvrier, mais je pense que...
J'ai gardé la sonorité, mais ce que je ne peux plus faire, c'est que certaines pièces sont d'une technique tellement difficile qu'il faudrait que au moins 5 heures par jour.
Est-ce qu'on peut dire que vous jouez maintenant par plaisir ?
Oui. Ah, oui, certainement. Oui.
Bien sûr, c'est le mot.
Il n'y a plus de trac, là. C'est fini.
Et c'est comme votre père qui peignait pour lui-même, on disait. Vous, là, et vous éprouvez le besoin, chaque jour, peut-être, de jouer ?
Oui, toujours. Oui. Il y aura des moments de fatigue ou des petits débuts de cafard que je ne laisse jamais se développer, mais l'instrument m'en guérit tout de suite.
Et puis, je pense que vous jouez aussi à deux. Enfin, vous
jouez, ça fait partie de nous. On a eu chacun des élèves à Séville. Donc, Rodrigo avait créé ce fameux atelier Ziriab, avec lequel on a fait un très beau coffret de 7 compacts sur la musique andalouse, chantée et jouée par des Andalous, qui va de 1450 à 1650, à peu près, c'est ça. Donc, c'était toute une masse musicale qui était méconnue, et nous l'avons fait pour l'expo de 92, d'ailleurs, qui a été très bien reçue par les critiques.
Mais vous avez tous les deux aussi des âmes de... enfin, collectionneurs, je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant, mais de passeurs, d'archivistes, d'historiens.
Passeurs, oui, je pense que passeur est un bon mot pour continuer à donner aux autres le goût, et puis le travail de la maison en tant qu'archive est ouvert gratuitement à tous les étudiants sérieux qui veulent venir faire des recherches.
Vous avez une collection de livres, j'ai lu ça sur Wikipédia.
Oui, c'est une bibliothèque qui sert, c'est-à-dire c'est une bibliothèque de livres que l'on lit.
Vivante.
Vivante, oui. Mais là-dedans, il y avait aussi une archive qui avait besoin d'être mise en ordre. Mon père, qui était un homme extrêmement méthodique, était plutôt désordonné. Ses papiers étaient partout, dans des boîtes, sur des tables,
oui,
sous les lits.
Oui, c'est pas très contradictoire, ça, je pense. Oui. On peut avoir des cases dans la tête pour des domaines très rigoureux.
Alors, j'ai fait une case pour ça, mais ça m'a pris plusieurs années. C'est, vraiment, il a fallu, pour mettre tout cela en ordre, ce qui était le premier pas pour faire ces coffrets.
Voilà. Et vous avez participé, Yann ?
Non, oui, en étant à côté,
en conseillant.
Quelquefois. Mais nous avons eu l'aide d'une merveilleuse bibliothécaire qui est venue pendant 30 ans, tous les matins, et pour aider mon mari à mettre tout cela sur fiche.
Et quand est-ce que vous avez appelé Bruno Dohan, alors ? Ou Dohan ?
Dohan ou Dohan, finalement. Dohan,
il est à côté, il nous surveille.
Eh bien, Bruno Dohan, ça fait 2 ans.
Et donc, c'était grâce à Jacques Maigne,
oui, notre cher Jacques.
Qui était un ami à nous de longue, longue, longue date, quand il est venu si souvent à Séville.
On a l'affiche de son livre.
Ben oui.
Il avait fait une critique d'un concert qu'on avait donné. Et bon, comme c'était une bonne critique, j'avais déjà une bonne impression de lui. Et puis un beau jour, il avait participé à un concours littéraire, qui était le concours Vol de nuit, à développer un texte dans le style de Saint-Exupéry, au moment où son Lightning P-32, je crois, ou 38, s'abîme dans les eaux de la Méditerranée. Le dernier moment, ce qu'il pense. Et pas mal d'écrivains avaient participé, et c'est lui qui avait gagné le premier prix.
Oui, je me souviens de Jacques Maigne, là, à votre place. C'est un grand souvenir de cet homme.
Et comme j'avais fait partie du jury, j'avais évidemment voté pour lui, l'amitié était devenue vraiment très solide à ce moment-là.
Et alors, de Jacques Maigne à Bruno Doan. Donc, Nîmes vous a rattrapé.
Oui,
en
fait. Moi, je suis quand même provençal.
Sent que vous le revendiquez.
Et je parle provençal.
Vous parlez provençal. Alors, dites-nous quelque chose en provençal.
Bon, vous parlez. Ma père nous parle à Soulette. Et c'est pas facile.
j'ai presque compris. Écoutez, merci à vous deux de nous emmener dans ce périple à la fois musical, à la fois littéraire, à la fois pictural. Vous avez parlé de votre âge, Rodrigo, 85 ans. Vous, je ne sais pas, mais ça ne se dit pas.
Ça ne se dit pas.
Surtout pas.
Secret d'État.
Mais vous continuez, je pense, à... Je ne sais pas si je vais dire travailler, parce qu'on a l'impression que si.
Ah oui. Pour moi, c'est une règle de vie. Mens sana in corpore sano.
Ouais.
Jusqu'au bout.
Jusqu'au bout.
Ne rien faire me paraîtrait monstrueux pour ce laps de temps qui nous est donné de vivre.
Mais
Et le perdre, ça me paraîtrait vraiment terrible.
Mais vous continuez aussi à chercher, à transmettre,
Maintenant, d'une façon différente. Pour moi, je suis en train d'écrire un roman qui s'intitule « Trois allégories du temps qui passe ». J'ai trouvé que c'était approprié pour ma fin de vie. C'est vraiment, certainement mon dernier roman.
Trois allégories. Pourquoi trois ?
Oh, c'est un chiffre sacré. Trois.
Oui, mais Sainte ça pourrait Trinité, être un autre...
La Sainte Trinité, d'abord.
C'est un chiffre fondamental pour les pythagoriciens, aussi, que j'aime bien. C'est vrai que les pythagoriciens interdisaient absolument de tuer, ne serait-ce qu'une puce, ou vraiment, pas tuer du tout. J'aime assez ça.
Alors, vous avez choisi, pour se quitter en musique, vous avez choisi une suite de Bach, parce que Bach, bon, c'est peut-être le plus grand des musiciens, je ne sais pas.
Oui et non.
Un des plus grands.
On dit que c'est le plus grand, mais je crois qu'il y a, au même moment de Bach, il y a tout de même Telemann, il y a tout de même Handel, qui lui dame pas le pion, mais tout juste.
Écoutez, merci, on vous écouterait des heures, on va écouter vos disques, on va lire le livre sur Marius de Zayas. Merci à vous deux pour ce très agréable moment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous. Merci.